Mais voici que dans le même temps, la nouvelle reine, Marie de Luxembourg, mourut brusquement à Issoudun, en accouchant avant terme d'un enfant qui n'était pas viable. On ne pouvait décemment déclarer la guerre pendant le deuil, d'autant que le roi Charles était vraiment très abattu et presque incapable de tenir conseil. Le sort le poursuivait décidément dans son destin d'époux. Trompé d'abord, ensuite veuf, il fallut que Valois, tout souci cessant, s'employât à découvrir une troisième épouse au roi, lequel s'inquiétait, devenait aigre, et reprochait à chacun le manque d'héritiers où se trouvait le royaume. Lord Mortimer dut donc attendre qu'on ait réglé cette affaire. Monseigneur de Valois eût volontiers proposé une de ses dernières filles à marier, si les âges avaient pu s'assortir. Malheureusement, même l'aînée, celle qui avait été offerte naguère au prince héritier d'Angleterre, ne comptait pas 12 ans, et Charles le Bel n'était guère enclin à patienter. Restait une autre cousine germaine, fille celle-là de Monseigneur Louis d'Evreux, défunt à présent, et nièce de Robert d'Artois. Cette Jeanne d'Evreux n'avait guère d'éclat, mais était bien faite, et surtout, elle avait l'âge requis pour être mère. Monseigneur de Valois, plutôt que d'engager de longues et difficiles tractations au-delà des frontières, encouragea toute la cour à pousser Charles vers cette union. 3 mois après la mort de Marie de Luxembourg, une nouvelle dispense était demandée au pape. Le mariage eut lieu le 5 juillet. 4 jours plus tôt, Charles avait décidé la confiscation de l'Aquitaine et du Ponthieu pour révolte et défaut d'hommage. Le pape Jean XXII, comme il le jugeait de sa mission chaque fois qu'éclatait un conflit entre deux souverains, écrivit au roi Édouard, l'engageant à venir prêter l'hommage pour qu'un des points du litige au moins fût apaisé. Mais l'armée de France était déjà sur pied et se rassemblait à Orléans, tandis qu'une flotte s'équipait dans les ports pour attaquer les côtes anglaises. Parallèlement, le roi d'Angleterre avait ordonné quelques levées d'hommes en Aquitaine, et messire Ralph Basset réunissait ses bannières. Le comte de Kent revenait en France, mais par l'océan cette fois, et pour exercer dans le duché la lieutenance que lui avait commise son demi-frère. Allait-on partir ? Non. Car il fallut encore que Monseigneur de Valois courût à Bar-sur-Aube pour y conférer avec Léopold de Habsbourg au sujet de l'élection au Saint-Empire, et conclure un traité par lequel Habsbourg s'engageait à ne point être candidat, moyennant somme d'argent, pensions et revenus dès à présent fixés, dans le cas où Valois serait élu empereur. Roger Mortimer attendait toujours. Enfin, le 1er août, par une chaleur écrasante où les chevaliers cuisaient comme en marmite sous leurs cuirasses, Charles de Valois, superbe, lourd, portant cimier à son casque et cotte brodée d'or par-dessus son armure, se fit élever en selle. Il avait à ses côtés son second fils, le comte d'Alençon, son neveu Philippe d'Evreux, nouveau beau-frère du roi, le connétable gaucher de Châtillon, Lord Mortimer de Wigmore, et enfin Robert d'Artois, qui, monté sur un cheval à sa taille, pouvait surveiller toute l'armée. Monseigneur de Valois partant pour cette campagne, sa seconde campagne de Guyenne, qu'il avait voulu, décidé, fabriquer presque, était-il joyeux, heureux ou simplement satisfait? Nullement. Il était d'humeur morose, parce que Charles IV avait refusé de signer sa commission de lieutenant général du roi en Aquitaine. Si quelqu'un vraiment avait droit à ce titre, n'était-ce pas Charles de Valois? Et quel visage faisait-il, alors que le comte de Kent, ce damoiseau, ce nourrisson, avait reçu, lui, la lieutenance du roi Édouard. Le roi Charles le Bel, qui n'était capable de décider de rien, avait ainsi de brusques et bizarres obstinations à refuser ce qu'on lui demandait de plus évidemment nécessaire. Charles de Valois pestait ferme ce jour-là, et ne cachait pas à ses voisins la petite opinion dans laquelle il tenait son neveu et souverain. En vérité, ce niais couronné, cet oison, valait-il qu'on se donnât tant de peine à gouverner pour lui son royaume? Le vieux connétable gaucher de Châtillon, qui commandait théoriquement l'armée, puisque Valois n'avait pas de commission officielle, plissait ses paupières de tortue sous son aume de forme démodée. Il était un peu sourd, mais à 74 ans faisait encore bonne figure en selle. Lord Mortimer avait acheté ses armes chez Ptolemy. Sous l'avantail levé de son casque, on voyait briller ses yeux au reflet dur, de la même couleur que l'acier neuf. Comme il marchait, par la faute de son roi contre son pays, il portait une cotte d'armes de velours noir, en signe de deuil. La date de ce départ, il ne l'oublierait pas. On était le 1er août 1324, fête de Saint-Pierre et Sliens, et il y avait 1 an, jour pour jour, qu'il s'était évadé de la tour de Londres.